Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 24 février et Martin et Boris sont autour de la table. Bonjour.
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 J'avais presque envie de dire bonjour les gars, mais bon, c'est peut-être un peu
familier. Pu, hein.
Voilà, donc on va développer un sommaire, bien ma foi, qui
est chargé.
Qui est chargé, mais c'est surtout pour dire qu'en fait, on va parler de films qui sortent aujourd'hui.
Tout à fait, enfin ça ce sera le créneau de Boris, donc je lui laisse présenter ce qu'il va nous raconter.
Oui, du coup en deuxième partie d'émission, hein, certainement je vais vous parler de Shutter Island, là, le dernier film de Martin Scorsese, qui sort aujourd'hui en salle, et puis je commencerai donc par contre l'émission avec un film anglais, du nom de White Lightning. Bon bref, voilà, donc c'est un petit film de Dominic Murphy, interdit aux moins de 16 ans. Voilà, je développerai ça tout à l'heure.
Et puis moi, parmi les films qui sortent aujourd'hui, il y aura Liberté de Tony Gatliff. Et il se trouve que Tony Gatliff était présent à Montpellier il y a 15 jours, donc eh bien, j'ai pu le rencontrer. Donc on écoutera bien ce qu'il dit, hein, sur son film qui parle bien de ces gitans qui ont été internés dans des camps sous l'occupation. Et puis il y aura aussi le film Araga de Merzak Alouache, donc l'Algérien, qui lui alors parle de ces brûleurs. Araga veut dire brûleur. Et ce sont ces Algériens qui quittent le sol algérien sur des barques qui traversent la Méditerranée pour aller en Espagne. Et là aussi, eh bien, il nous parlera de ce film et de cette thématique.
Voilà, et quant à moi, je vous parlerai donc pas de films qui sortent aujourd'hui, mais de films qui sont sortis mercredi dernier. Il y aura une petite critique de Edge of Darkness, en français « Hors de contrôle », le grand retour de Mel Gibson en tant que comédien. Et je vous parlerai également de Fantastic Mr. Fox, donc un dernier film de Wes Anderson.
Voilà, c'est Cinérama et on commence avec White Lightning.
Alors attention, OVNI. Avec ce White Lightning, je vais pas y arriver, du britannique donc Dominic.
Si tu veux, on peut te doubler.
Oui, je crois qu'on va. On
tu nous fais un signe et puis.
Le film donc c'est l'adaptation d'une nouvelle de Shane Smith et ça raconte eh bien la vie tumultueuse de Jesco White depuis sa tendre enfance passée à sniffer de l'essence jusqu'à sa maturité où torturé par la mort brutale de son père, il décide de retrouver de tuer ses assassins. Alors basé sur des faits réels de la vie de Jesco White. Et interdit en salle au moins de 16 ans, ce film est d'une vigueur brute de pomme et n'épargnera pas la sensibilité du spectateur. Jesco a, en effet, le démon dans les veines. Son enfance n'a certes pas été spécialement généreuse, mais pas pour autant complètement malheureuse. Tenu de trouver de quoi s'occuper dans la campagne de Virginie-Occidentale, du fait principalement du laxisme d'un père obnubilé par la danse de claquettes et d'une mère effacée, Jesco va se mettre à sniffer de l'essence dès 6 ans. Son adolescence ne sera qu'une succession d'allers-retours entre maison de redressement puis prison et le bungalow familial. Inutile de préciser que l'équilibre mental de notre cher ami en sera pour ses frais et que celui-ci va progressivement sombrer dans le trouble mental et la pathologie. Son père trouvera toutefois le temps et le moyen de lui transmettre sa passion de la danse, ce qui va permettre à Jesco, devenu homme, d'y trouver un moyen de subsistance. Toutefois, ne sera pas effacée de son esprit cette violence latente, héritée de ses années d'humiliation et de maltraitance vécues durant ses incarcérations successives. Alors qu'il tombe amoureux d'une femme et tente de goûter au bonheur, son père se fait assassiner. Jesco va se mettre à élaborer sa vengeance.
White Lightning
est sans doute une expérience à vivre. D'abord parce que le film propose de suivre une vie qui sort des sentiers battus. Incroyable destinée que celle de ce Jesco White. Ensuite, parce que la réalisation colle au plus près de son sujet. Filmé dans des teintes délavées, à mi-chemin du noir et blanc et de la couleur.
White Lightning.
C'est d'abord un film avec de belles images, au grain marqué. Le découpage du film est original, expéditif, cassant l'idée même de temps mort avant qu'il ne se produise, laissant quelques secondes de noir, comme autant de répit entre deux scènes dynamitées pendant lesquelles la voix off cassée de Jesco renseigne le spectateur sur ce qui se passe dans sa tête entre deux scènes de vie portées à l'écran. Enfin, la musique, principalement de la bonne vieille country, souvent utilisée à contre-emploi, donne du rythme au film ou en allège de ses notes endiablées la dureté des images. Bonne performance donc de Dominique Murphy, récompensé d'ailleurs par le grand prix du jury du Festival du film britannique de Dinard. Voilà donc...
White Lightning.
Yes, c'est un film qui est sorti donc la semaine dernière et qui continue à être projeté au Diagonal, donc en horaire variable. Ça va être une fois de plus compliqué de voir ce film, mais je pense qu'il en vaut largement le détour pour peu évidemment que vous ayez plus de 16 ans.
Ah, et pour quelle raison alors est-il
Parce
interdit au moins 16 ans?
C'est une sacrée dureté, quoi. C'est vraiment une descente aux enfers qu'on vit avec ce personnage. Hein. Qu'encore une fois, il sniffe de la colle, de l'essence à partir de 6 ans, bien sûr, ça lui dénature un peu les méninges. Et puis, par la suite, avec les violences qu'il vit, il finit à moitié fou, quoi. Cette espèce de folie encore plus ou moins dissimulée qui lui permet de ne pas se faire interner de manière définitive. Mais il est quand même bien attaqué et donc il y a des scènes de violence où sa folie s'exprime qui en choqueront plus d'un, je pense. Puis après, il y a ce rythme de, encore une fois, il y a vraiment un montage plutôt saccadé qui tient les sens en éveil et voilà, c'est vraiment une expérience particulière, quoi.
Que ce film, White Lightning.
Exact.
Lightning.
Merci les gars. Donc participation à cette chronique de Vincent Pourageau, donc à ma droite, et de Martin Griffaut en face. On les remercie bien.
C'est pas grave, on prend les droits d'auteur. Donc on passe maintenant à bien une sortie aujourd'hui. C'est le dernier film de Tony Gatliff. Alors Tony Gatliff, il a fait La Chaudrome, il a fait Gaggio Dio. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre?
Exil.
Et puis Le Temps des Gitans. Et puis il a fait...
Le Temps des Gitans, c'est...
Ah non, oui. Alors bon, on explique aux auditeurs, voilà. Enfin, c'est le phénomène de l'oreillette à la télévision. On voit beaucoup ça. Donc il y a le technicien qui se permet, généralement c'est le réalisateur de l'émission qui se permet de dire des choses dans l'oreillette et effectivement l'animateur répète sans. Enfin, il oublie complètement son cerveau. C'est ce qui s'est passé avec Le Temps des Gitans d'Emir Kusturica. Merci Ali. Donc il y avait aussi, c'était son avant-dernier dont j'ai oublié le nom mais qui se passait Transylvania, voilà, et qui se passait donc en Roumanie. Là, il revient en France. Alors, c'est toujours l'histoire des Roms. Alors, il est question des Roms qui sont internés dans des camps pendant l'occupation. C'est à partir de 1943. Enfin, l'action de son film se passe en 1943. Et puis, ça se termine en 1946. Jusqu'en 1946, donc, ces Roms ont été internés dans des camps. Et le phénomène le plus ignoble, c'est qu'au bout d'un moment, en 1946, donc, il y a aussi l'épuration. Et puis, il se trouve que ceux qui ont dénoncé les Roms ou qui les ont internés se retrouvent dans les mêmes camps que les Roms. Donc, voilà, c'est cynique et c'est comme ça. C'est la raison d'État. On va écouter Tony Gatliff parler du thème de ce film. Alors, c'est un film qui s'appelle Liberté. Enfin, c'est un peu fort comme film quand même, enfin comme titre de film, et il en parle très bien. On écoute.
Depuis 1912, la société française avait instauré un carnet qui s'appelle le carnet anthropométrique. C'est un carnet d'identité draconien, c'est-à-dire que c'est impossible de passer à côté, quoi, à côté d'une rafle. Et donc ce carnet anthropométrique, il y avait des photos de face, de profil, où il y avait de tout sur la famille, le petit enfant, tout, le nombre de familles, le nombre de véhicules, le numéro de véhicules, les chevaux, tout était dedans. Et donc ce carnet anthropométrique, il y avait des visas dedans, centaines de pages ou plus, des petits visas comme ça, qu'il fallait tamponner à chaque fois que vous sortiez d'une agglomération, que vous rentrez dans une autre. Par le préfet, par la police, par la gendarmerie ou par le maire. Et donc, à travers ce carnet, ils savaient toujours où ils étaient. C'est-à-dire, avant, ils étaient nomades. Hein. C'était nomades quand ils partaient, dans les forêts et tout. Mais avec ce carnet, ils savaient toujours de là ou d'où ils venaient. Donc, quand il y avait un meurtre, un vol, n'importe, tout de suite, ils allaient les voir pour voir ce qu'ils ont fait. Ils étaient pour les soupçonner, en tout cas. Donc, ce carnet anthropométrique, c'est le début de la ségrégation qui allait se passer en 1940 quand les Allemands sont arrivés. Quand la France a été anéantie par les Allemands que ça a duré, je sais pas, quelques jours, un mois, même pas. Après, tout de suite, la France a dit ciao. Il y avait après les maréchal Pétain et il n'y avait pas encore tout à fait... Il y avait un peu de camps de concentration dans le Midi, ici, avec les anciens Espagnols, les anciens camps qui avaient recueilli les Espagnols. Donc ils avaient mis déjà les Gitans là. Et puis après, ils ont fait des camps un peu partout, dans toute la France. Mais ils les ont fait d'une froideur incroyable. C'est-à-dire que les Allemands ne leur ont pas demandé. Hein, parce que les Allemands étaient occupés à les liquider en Allemagne. Ils n'avaient pas demandé ce plan.
Le président de la République française décrète. Article 1. La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre, sous peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans.
Et donc, ils ont commencé par mettre partout, dans toutes les régions des camps, et ils les ont fabriqués d'une façon très, très méthodique. Des hangars sans chambre, c'est-à-dire juste des lits et des fois pas de lits, avec du bois pour le sol, des fois, dehors c'est de la boue, du toit, il n'y a pas d'isolement, c'est-à-dire qu'il fait très froid en hiver. Il y avait des fois, plus tard, il y avait des haras, des choses comme ça. Il n'y avait rien pour manger. Et ce qui était formidable, c'est qu'ils ont pris les clôtures des animaux qui existaient à l'époque. C'est-à-dire que les clôtures, les barbelés qui étaient faits pour les animaux. C'est comme ça qu'ils ont commencé par les encercler pour faire les grillages, les camps, les fils de fer barbelés, parce que c'était, ils étaient fabriqués pour les moutons ou pour empêcher les vaches d'aller quelque part, comme aujourd'hui. Et donc, c'est dès le départ, ils ont voulu les anéantir, même avec la collaboration de l'Allemagne. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, ils étaient d'accord. C'est d'accord pour vous faire quelque chose. Ils ne les ont pas tous envoyés en Allemagne. Ce n'était pas le but. Le but en France, c'était qu'il n'y ait plus aucun nomade. Dès qu'un nomade était quelque part, ils l'amenaient, donc un gitan, ils l'amenaient dans un camp qui était dans la région. Ils les gardaient avec des gendarmes ou des douaniers. Et ça, depuis 1940 jusqu'en 1900. Mon film commence en 1943. Et ils sont restés dans ces camps jusqu'en 1940. En 1945, il y a eu la libération. De Gaulle marche sur les Champs-Élysées, c'est la libération de Paris, 1945. Ils ont profité pour ne pas les sortir de ces 40 camps, ils sont restés, 1945, et ils ont mis avec eux tous les miliciens, les collabos, et les gens qui ont fait du marché noir, et ils les ont mis dans ces camps, avec les gitans. Donc ce qui fait que les gitans étaient avec leurs ennemis qui les ont déjà arrêtés. Et ils les ont gardés jusqu'en 1946. 1946, la guerre était finie pendant un an. Tous les 40 camps. Et à un moment, ils les ont sortis sans indemnité, sans les guider, sans rien du tout. Donc voilà, la volonté de la France était celle-là. C'était, à mon avis, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul, il y a aussi les historiens, les ziganologues et tout ça qui sont très forts, c'est à mon avis, ils étaient sur la voie de les supprimer. Pas comme les Allemands, pas les chambres à gaz, c'était l'Allemagne. Mais bien qu'il y avait quand même qui sont partis hein, dans les chambres à gaz en Allemagne. Hein, certains, il n'y en a pas beaucoup, mais certains sont partis de France et du nord de la France. Mais si la guerre avait continué encore pendant 3 ans, il n'y aurait plus aucun gîte en France. Parce qu'ils les auraient terminés, sûr.
Vous courez un grand danger si vous continuez à parcourir les routes.
C'est la guerre.
C'est votre guerre. Nous... On n'a jamais fait la guerre.
Pourquoi tu nous enfermes comme des chiens ?
Pour débarrasser la France de sa vermine.
Je me demandais si vous aviez vu des documents et notamment des photos, parce que quand on voit, quand on arrive dans ce camp, on a l'impression qu'on a d'abord une photo et après vous faites des travelling comme ça sur des gens qui ne bougent pas. Est-ce que ça fait référence à des documents que vous avez vus ?
Oui, parce que de cette époque-là, il ne reste que des photos. Et malheureusement, ce sont des photos prises, pas par des amis, prises par les gendarmes ou par les nazis. Et donc, la seule document qu'on a, c'est ces photos-là. Et donc, tout de suite, quand je me suis dit, je vais filmer un camp, il ne fallait surtout pas filmer un camp comme on filme Auschwitz ou comme on filme un camp en France. Parce que c'était comme ça à l'époque. C'était, ils leur tapaient dessus. Il y avait des chiens, il y avait des schlags comme ça. Ils ne leur donnaient pas à bouffer. C'était horrible. Hein. C'était vraiment horrible. Et donc, ça se sentait mauvais sûrement parce qu'il y avait des gens très malades et tout ça. Et donc, il fallait pas faire un film comme ça, il fallait être public avec la mort, avec les gens, avec la souffrance des gens. Il faut être public. On raconte pas, c'est pas de la photographie, c'est pas de l'art. C'est de la témoignage. Quand quelqu'un veut faire de l'art avec un camp de concentration, faut l'arrêter tout de suite. Faut l'arrêter de l'amener dans un camp, dans un truc de psychologique qui se remette, parce que il y a pas d'art. Hein, quand on vous dénonce dans les massacres des Hutus, on peut pas faire dans les massacres des Hutus de l'art. C'est pas possible. Celui qui le fait, il est fou. Par contre, le témoignage est fort. Le témoignage, faut témoigner, c'est tout.
Calmez-vous!
C'est pas un film comme ça pour venir en juge, ou pour venir condamner, ou pour venir demander des comptes. Absolument pas. Surtout pas. Parce que qui on est pour tout d'un coup aller juger l'acte d'un pays qui était en 1940 et qui était aussi en collaboration avec les Allemands. On n'est pas là pour juger, c'est pas le but du tout. Mais par contre, on est là, un film est là, et puis il y a aussi des populations qui sont en train de se battre pour ça. On est là pour faire reconnaître ce qui s'est passé, c'est-à-dire soulever le couvert du trou noir où était l'histoire, cette histoire des Tziganes partout dans toute l'Europe et là surtout la France, pour dire et pourquoi vous n'avez pas parlé de ces gens. Et c'est ça le but, c'est uniquement ça. Donc ça veut dire, c'est la scolarité, c'est l'éducation nationale, qu'il va falloir qu'il s'explique, qu'il amène, qu'il répare, disons, ça, qu'il fasse le minimum pour que cette histoire existe. Et une fois que cette histoire existe, c'est déjà une reconnaissance par rapport au peuple rom, ou gitan. Les gitans ici, là, ceux qui sont d'Arles ou de Montpellier, c'est pareil, hein, ou de Perpignan. C'est la même chose, ils ont autant souffert.
Si ma terre avec cette ruine peut sauver toute une famille, faut pas hésiter.
Tu sais que tu vas avoir tout le village contre toi? Pourquoi tu fais ça, Théodore?
Pour faire quelque chose. Juste quelque chose.
Et voilà, et Théodore, donc, qui est le maire du village, interprété par Marc Lavoine, eh bien, fait partie de ces justes qui décident d'aider les Roms. Et il y a aussi un autre personnage, interprété cette fois-ci par Marie-Josée Croze, qui est l'institutrice, qui, elle, est une résistante. Donc, dans ce film, on voit les Roms d'un côté, et puis on voit ces justes, et puis il y a aussi quelques collabos, mais les traits ne sont pas forcés. C'est ce qui est plutôt intéressant dans ce film de Tony Gatliff, c'est qu'il aurait pu faire des bons, des méchants, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt tout en nuance, même si le scénario est très démonstratif, puisqu'il s'attache davantage à la vie des Roms. Alors, bien sûr, comme dans tous les films de Tony Gatliff, il y a de la musique, ils ont leur violon. Et ça n'arrête pas de jouer. Ils chantent même bien pour les poules, voilà. Enfin, les paysans, quand leur poule ne pondait pas, quand leur poule ne pondait pas, eh bien, ils faisaient appel aux gitans pour qu'ils viennent
les kidnapper,
les séduire ou je ne sais quoi. Enfin,
non,
mais
c'est bien connu. Stimuler.
Hein,
voleurs de poules.
C'est bien connu dans les élevages en batterie, on diffuse du Mozart et les poules pondent plus. Non, mais c'est vrai. Hein, scientifiquement.
Rien de mieux que la 9e symphonie pour faire un bon œuf calibré. Voilà, donc le film de Tony Gatliff, Liberté, sort aujourd'hui. Et bien moi, je vous le conseillerais, enfin, notamment par rapport à son précédent. Enfin, je trouve qu'il a vraiment une très très bonne tenue. Et puis, alors j'ai oublié le nom du petit-fils de Chaplin.
Tiret, voilà.
Qui interprète le rôle de Taloche, qui est un Rom qui est vraiment épris de liberté. Il sort du lot,
on dirait.
Il sort vraiment du lot. Enfin, il est extraordinaire, il grimpe partout. Enfin, il a une force à l'écran, une présence incroyable. Enfin, je crois que c'est un artiste qui vient du cirque. Hein. Enfin, et donc ça, c'est un super casting. Ce personnage est merveilleux. Enfin, est super bien mis en scène par Gatliff. Donc rien que pour ce personnage Taloche, enfin, je vous recommande ce film Liberté. Voilà. On continue ?
Oui, bah, on va passer à autre chose, quelque chose de très différent. puisqu'on va parler un petit peu de Edge of Darkness. Alors, 7 ans, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas vu tonton Mel Gibson venir casser la gueule aux méchants sur grand écran. Depuis Sign de M. Night Shyamalan, le bonhomme n'avait plus remis les pieds devant la caméra, mais uniquement derrière en tant que réalisateur. Et puis pendant cette période, il a aussi un peu mis les pieds dans le plat en adaptant les évangiles au cinéma. Il a mis plusieurs fois les pieds en cellule de dégrisement et surtout il a mis les pieds dans la gueule à tous les journalistes qui ont osé lui poser des questions indiscrètes sur son alcoolisme et sur les propos antisémites qu'il avait tenus lors d'une arrestation en 2006. Bref, avec Hors de contrôle de Martin Campbell, Mel Gibson signe son grand retour comme comédien dans la peau de Thomas Craven, un vieux lieutenant de police dont la fille est assassinée sous ses yeux. Alors Craven va mener son enquête de façon officieuse, il va découvrir une conspiration à base de corruption de sénateurs, de sociétés privées classées secret défense et d'armes nucléaires. Et au bout du compte, vu qu'il ne comprend rien à cette histoire trop compliquée, il va tenter de se faire justice lui-même. Voilà, donc nous sommes devant un film de vigilante, un genre cinématographique propre à déclencher polémiques et réactions outrées chez les moins réactionnaires d'entre nous. Alors pour ma part, j'ai toujours eu une nette préférence pour un Punisher, adepte de l'autodéfense, plutôt que pour un Superman qui livre les méchants à la police. Mais bon, alors on va laisser de côté cette polémique et la morale discutable véhiculée par le scénario, et on va s'intéresser plutôt au film en lui-même. Donc Hors de contrôle est adapté d'une mini-série télé britannique produite par la BBC en 85, dont la réalisation était également signée par Campbell. Alors comme c'était déjà le cas avec le film Jeu de pouvoir de Kevin MacDonald qui était sorti en novembre dernier et qui était lui aussi adapté d'une série de télé produite par la BBC, l'histoire originale qui dure plus de 5 heures a été bien sûr grandement simplifiée et au lieu de la fresque pessimiste sur le danger nucléaire et sur l'affrontement inévitable entre l'homme et sa planète d'adoption que les téléspectateurs anglais ont pu découvrir, eh bien Campbell nous propose avec son film un thriller politico-économique aux ambitions assez limitées. Alors l'enquête menée par Tommy Craven s'avère faussement tortueuse, faussement compliquée. Les différents personnages sont tracés à grands traits dans une belle galerie d'archétypes hollywoodiens, avec quand même quelques surprises, en particulier chez le personnage de Jedburgh. Et la résolution de l'énigme ainsi que les répercussions qu'elle impliquait dans la série télé sont tout simplement esquivées pour laisser place à un règlement de compte typiquement américain. Bref, pas grand-chose de neuf du côté du scénario. Donc malgré quelques rebondissements, pas vraiment inattendus, quelques bonnes idées assez mal exploitées, comme les hallucinations qui frappent certains personnages, eh bien le film déroule son histoire prémâchée vers un dénouement tellement prévisible qu'il procure un véritable soulagement quand il finit par se produire. Alors heureusement, l'interprétation et la mise en scène parviennent à relever un petit peu le niveau. Donc étant donné que le film a surtout été vendu comme le grand retour de Mel Gibson en tant qu'acteur, il aurait été dommage de ne pas parler de sa performance. Eh bien, dans le rôle de ce vieux flic, au bout du rouleau, Gibson prouve encore une fois que c'est un grand comédien, malgré la médiocrité du cadre dramatique avec lequel il doit composer. Donc sympathique et attentionné en papa gâteau, il s'avère également très crédible dans son interprétation de la souffrance et du deuil. Il apparaît en état de choc juste après le drame, sans réaction, quasiment inexpressif. Et au fur et à mesure que le film progresse, il semble petit à petit prendre conscience de la mort de sa fille. Et de façon inattendue, c'est dans une scène de trahison où sa fille n'est pas particulièrement au centre des discussions qu'il finit par craquer et par laisser pointer l'émotion. Voilà, donc un Mel Gibson plutôt en forme, même s'il ne prend pas particulièrement de risques avec ce rôle taillé sur mesure pour lui. Et à ses côtés, eh bien, le seul comédien à attirer un tant soit peu l'attention, c'est Ray Winstone, dans le rôle de Jedburgh, donc un personnage au rôle assez ambigu, une sorte de médiateur, consultant, nettoyeur, qui va tout au long du film jouer au chat et à la souris avec Craven. Alors à la mise en scène, Campbell prouve une fois encore qu'il est plutôt à l'aise quand il s'agit de mettre en boîte des scènes d'action spectaculaires. Donc que ceux qui en doute revoient le masque de Zorro ou la séquence de course-poursuite au début de Casino Royale. Et le problème, c'est qu'on le sent bien moins inspiré quand il doit filmer des dialogues. Et malheureusement, des dialogues, il y en a un paquet dans Hors de contrôle. Par contre, de l'action, il y en a beaucoup moins. Et à part une ou deux scènes un peu rythmées, le reste du film s'embourbe dans des séquences d'exposition qui n'en finissent pas. Donc voilà, Hors de contrôle, c'est un film plus que moyen, à mon avis, au scénario léger, malgré le potentiel que représentait le matériau d'origine. Pour ceux qui s'attendent à un déluge d'action, comme le suggère la bande-annonce, préparez-vous à être méchamment déçus. Et quant aux fans absolus de Mel Gibson, mais qu'est-ce que je peux vous dire, précipitez-vous dans les salles.
À vous de choisir si vous préférez mourir sur la croix ou enfoncer les clous.
Voilà, donc Hors de contrôle, c'est sorti mercredi dernier, ça passe un peu partout sur Montpellier, exclusivement en version française. Mais bon, le doubleur de Mel Gibson est tellement excellent. Et puis on connaît cette voix, c'est vraiment, vraiment associé à Mel Gibson. On a tous vu L'Arme Fatale et compagnie avec cette voix en particulier. Donc voilà, Hors de contrôle.
Ça a l'air de faire un peu penser à Taken de prime abord, sans l'action peut-être.
C'est vrai, c'est un peu ça. C'est plus compliqué, mais faussement compliqué. Il y a aussi ce côté très vigilante, voilà, film de vengeance où le mec fait justice lui-même. Mais à la limite, le film de c'est Pierre Morel, Taken, donc était presque plus jubilatoire parce que voilà, il lésinait pas sur les scènes d'action. Il était assez généreux ce qui concernait les fusillades, les mano à mano, etc.
C'était une production Besson d'ailleurs, je crois, non ?
Scénario et production sans doute, ouais. Ouais. Mais Pierre Morel, c'était le réalisateur de Banlieue 13, quoi. C'est pas n'importe qui.
Alors avant de retrouver une chronique sur Monsieur Fox et Shutter Island, eh bien nous allons écouter une interview de Merzak Alouache, réalisateur du film Araga. Araga qui avait été projeté déjà en avant-première pour le Cinémed. Il y a eu une autre avant-première et du coup une fausse avant-première il y a 3 semaines pendant le panorama du cinéma algérien au cinéma Diagonal. Mais l'avantage de cette fausse avant-première, c'est que Merzak Alouache était présent à Montpellier alors qu'il nous avait fait faux bond pendant le Cinémed. Donc eh bien, j'ai pu le rencontrer dans les studios de Divergence et on va parler donc de ce film qui raconte l'histoire en fait, eh bien, de ces brûleurs, un raga brûleur qui traverse la Méditerranée pour eh bien, avoir un pied en Europe, en tout cas en Espagne. On écoute.
Je m'appelle Rachid. Ce n'est pas mes pieds que vous voyez là. C'est les pieds de Omar, mon meilleur copain, qui a décidé de nous quitter. Comme ça. Sans le prévenir. Ce jour-là, c'était pour nous un jour de malheur.
Je suis vraiment très surpris par ce qui se passe en Algérie. Et, bon, c'est une situation qui a commencé au Maroc, il y a ça en Tunisie, en Libye, l'Afrique noire, etc., les Kurdes. Enfin, ces déplacements de population, ces déplacements sur des routes nouvelles, sur des routes secrètes qui sont des traversées vraiment suicidaires, par exemple de la Méditerranée. Donc j'ai été intéressé par ce sujet. On en parle beaucoup en Algérie. Et j'ai eu envie de tourner un film. C'était pas évident, mais j'ai tourné ce film. J'ai tourné une fiction, quoi.
On peut peut-être rappeler les chiffres. Je suppose que vous les connaissez. Hein. Enfin, lors de ces traversées, qui sont peut-être quotidiennes, je ne sais pas. Ouais. Donc, il y a forcément des embarcations qui chavirent, des gens qui se perdent en mer.
Les chiffres, moi, j'ai mis quelques chiffres dans mon film pour donner une idée un peu de l'ampleur des dégâts. Mais les chiffres, sont des chiffres qui ne sont pas précis parce que ce sont des passages clandestins. Donc, les morts sont des morts clandestines. On ne sait pas très bien combien il y a de gens qui disparaissent en Méditerranée. On sait que les morgues espagnoles sont quand même surchargées de cadavres. Et dans la presse algérienne, il n'y a pas longtemps, on parlait de 600 morts qui sont dans les morgues espagnoles. Et les Espagnols demandaient aux autorités algériennes de venir identifier ces gens, quoi, et de voir si c'est des Algériens, les rapatrier les dépouilles, etc. Dernièrement, le ministère des Affaires étrangères algérien a parlé de pratiquement de 1200 expulsions de Haraga d'Espagne par an. Donc voilà, c'est beaucoup. Alors combien il y a de disparus, on n'en sait rien. Les chiffres que j'ai mis à la fin de mon film sont des chiffres qui sont extraits de rapports de la CIMAD. Hein, donc la CIMAD a des chiffres un peu. En Algérie, il y a aussi des associations de parents de Haraga disparus, donc qui se sont créés, qui cherchent à avoir des infos sur leurs enfants.
Quand on est descendu attendre la barque, j'ai le cœur qui s'est serré. Et je savais que le patibuleur allait nous pourrir la vie. Ce qui devait être un jour de bonheur allait se transformer en cauchemar.
Il y a deux temps quand même dans votre film. Il y a tout ce qui se passe à Mostaganem, parce que le départ se fait de Mostaganem, donc sur la côte algérienne. Là, on fait connaissance avec, avec un certain nombre de personnages. Vous en suivez certains plus précisément que d'autres. Notamment, il y a ce couple, parce qu'il va y avoir une femme dans cette embarcation. Il y a aussi un religieux, un fervent, un jeune fervent. Et puis après, il y a ceux dont on entend très peu parler, c'est-à-dire ceux qui viennent d'encore plus loin, qui viennent du désert et qui sont à peine tolérés. S'ils sont tolérés, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Mais en même temps, voilà, si ça pouvait se passer simplement entre Algériens, ce serait bien mieux. Il y a comme ça qui est présent. Si vous avez ce regard sur l'Algérie moderne, c'est-à-dire que l'étranger n'est pas forcément non plus bien vu, parce qu'on le sait, l'Algérie est une terre de passage.
Ces jeunes qui viennent du Sud ne viennent pas d'ailleurs, hein, c'est des Algériens. C'est des Algériens du Sud. Hein. Donc, il y a ce rejet, il y a une espèce de rejet de classe. Hein. Ceux qui sont de Mostaganem sont les gens du Nord. Il y a un problème entre quand même les gens du Sud, du Nord. Bon, on ne connaît pas bien le Sud de l'Algérie. En plus de ça, effectivement, même si je ne montre pas, des gens qui traversent la frontière sud de l'Algérie pour venir vers le nord, vers l'Europe, je montre quand même que ces jeunes qui sont du Sahara, qui sont bruns, certains sont noirs, sont des Algériens, mais ils ne sont pas assimilés, quoi. Le problème reste le même. Il y a une espèce de forme de racisme. D'ailleurs, j'en parle dans un téléfilm que j'ai tourné juste avant, hein, il y a deux ans, et qui a été diffusé sur Arte. J'ai tourné un téléfilm pour Arte et qui s'appelait Taman Rasset, où je parlais justement de ces gens d'Afrique subsaharienne qui traversent l'Algérie pour aller vers le Maroc, et comment ça se passe au cours de leur passage par Taman Rasset pour aller vers le Maroc, le racisme, le racket, le rejet, etc. Donc il y a un problème de toutes les manières. L'émigré est toujours rejeté par le pays qui est censé être le pays d'accueil, de transit.
Vous avez de la chance d'avoir fait l'école. Très drôle de vous voir ensemble. Les ploucs et les fils à papa. Mais ton papa, il n'a pas pu avoir un visa pour toi. Peut-être qu'il fallait envoyer la copine au consulat. La belle copine.
Oh, la genou, là.
Les candidats au départ sont à prendre dans toutes les classes.
Carrément, parce que moi je pense, de ce que je connais de ce phénomène, c'est que les causes sont liées pas spécialement à ce qu'on appellerait la misère. Hein. Les causes sont liées, la mal-vie, plutôt la mal-vie, le manque de perspective, et cette mal-vie touche des catégories très larges de la population algérienne, c'est-à-dire que quelqu'un, un jeune qui peut avoir son travail, etc., va vivre mal sa vie de jeune, ne pas pouvoir se marier, avoir un problème de logement, avoir un problème de loisirs, avoir un problème culturel, etc. Et donc cette mal-vie qui est aussi liée à la circulation des images. Actuellement, les images circulent très rapidement. Les immeubles, les cités en Algérie sont hérissées d'antennes paraboliques. Donc on voit tout ce qui se passe dans le monde. On vit une vie virtuelle. Et quand on s'aperçoit qu'on est dans un pays où il ne se passe rien, c'est la monotonie, en même temps, on ne sait pas très bien où on va, on se demande quel est le projet de société. Bon, et donc la réflexion, c'est est-ce que maintenant, je vais passer ma vie à la mosquée? Est-ce que je vais faire quoi? Est-ce que je vais devenir alcoolique? Donc, il y a eu un problème de mal-vie qui touche toutes ces catégories. C'est pour ça que j'ai voulu que sur cette barque, il y ait des antagonismes et des gens qui sont différents les uns des autres. Quoi. Effectivement, les fils à papa. Les fils à papa, c'est un peu péjoratif, parce que ça, c'est un des personnages qui les traite de fils à papa. Disons que c'est des gens, disons que c'est des étudiants qui sont réduits à traverser de cette manière.
Allez, on y va.
Non, on doit attendre.
Pourquoi?
Un appel. Il y a des copains qui vont nous avertir juste avant la nuit. Comme ça, les gardes-côtes, on les évitera.
Bon, on reste tranquille, hein. Allez, reculez. Reculez.
Donc il y a ce personnage qui n'est pas invité au départ, qui s'impose. Et c'est un personnage un peu trouble, qui vient aussi de l'histoire algérienne. Alors je ne sais pas si on peut en parler, si on peut dévoiler un peu son identité ou pas. Pas trop, hein. C'est vrai. Mais en fait, il ajoute une angoisse supplémentaire. Il y a déjà cette angoisse de la traversée, avec effectivement le froid, le climat, la nuit, le fait de ne pas trop savoir où ils vont, même s'ils ont un GPS, et ainsi de suite. Et vous avez mis en plus ce personnage vraiment très trouble. Ça, c'était important pour le scénario, de prendre ce personnage.
Pour moi, c'était important parce que c'était, ce personnage allait constituer une continuité de l'atmosphère qui règne peut-être en Algérie avec des gens qui dominent, des gens qui sont hargneux, des gens qui sont méprisants. Hein. Il y a le terme il y a un terme qui est utilisé dans le film, c'est la hogra. Il y a la harga. Harga, c'est brûler, partir. Et la hogra, c'est le mépris. C'est comment quelqu'un qui a la force, qui a la puissance avec lui, peut mépriser les autres. Et ça fait partie aussi d'une des causes de départ, d'une des causes un peu de la démission de ces jeunes par rapport à un pays. Quand vous allez en Algérie, on vous parle souvent de la hogra. La hogra, c'est le flic qui peut vous tabasser comme ça. C'est le mépris. Hein. Je crois que le terme exact, c'est le mépris. Donc, moi, j'ai fait en sorte que cette hogra existe aussi sur la barque et nous montre un peu une société algérienne qui continue à se chercher, qui continue à chercher des valeurs nouvelles. Nous sommes dans une société où les jeunes aspirent à la démocratie, aspirent à vivre bien dans un pays qui a une manne pétrolière, dans un pays riche. L'Algérie n'est pas le Mali, n'est pas le Niger, c'est un pays riche, c'est un pays avec des paysages splendides, avec un sud incroyable, etc., où il y a beaucoup de choses à faire. Et pour moi, ces jeunes qui partent ne sont pas des jeunes qui détestent leur pays. Ce sont des jeunes qui, dès que s'offre à eux l'occasion d'aimer le pays, ils l'aiment, mais ils n'aiment pas le système qui les oppresse, qui leur permet pas de s'épanouir. Voilà. Actuellement, nous avons en Algérie une équipe de football qui fait des belles choses au niveau international. Et brusquement, sans qu'il y ait de directive ni rien, il y a un petit esprit, un esprit comme ça nationaliste, une fierté qui remonte. Alors, bien sûr, certains vont se servir de cette fierté pour dire que tout va très bien, que nous sommes très forts, etc. Mais on peut pas enlever l'idée que si on donnait la possibilité de s'exprimer, de faire des choses, et si on aidait ces jeunes, le départ comme ça, ce suicide s'arrêterait.
Dès que tu arrives, tu nous appelles.
D'accord.
Dès que tu arrives, promis.
T'inquiète, papa.
Je ne m'inquiète pas. Je te fais confiance. Cette fois-ci, je sais que tu réussiras. Rien ne t'arrêtera. Et si j'étais jeune comme toi, j'aurais fait la même chose. Dire qu'avant, je vivais de l'autre côté. Et je suis revenu. Qui d'accord le bras.
C'était Merzak Alouache, donc le réalisateur de Haraga. Haraga qui sort aujourd'hui et notamment donc au Diagonal.
Alors, on va passer à Fantastic Mr. Fox. Donc, Fantastic Mr. Fox, c'est le sixième long métrage de Wes Anderson. Et c'est la première fois que le réalisateur de La famille Tenenbaum et de La vie aquatique s'essaye au cinéma d'animation. Alors, le film est adapté d'un roman du célèbre écrivain Roald Dahl, auteur entre autres de Charlie et la chocolaterie, de James et la pêche géante, ainsi que de nombreux autres romans et nouvelles. Alors, Fantastic Mr. Fox nous raconte l'histoire de Mr. Fox, un renard qui a abandonné la chasse aux poules pour se consacrer à sa famille et pour se consacrer au journalisme. Mais sa vie ne lui convient plus, en lui gronde l'appel de la forêt et l'insatisfaction. Alors, il décide de devenir propriétaire d'un bel arbre qui fait face aux trois plus grandes fermes de la région. Et devant la tentation d'aller piller les poulets, oies et bouteilles de cidre de ses nouveaux voisins, les bonnes résolutions de Mr. Fox ne vont pas tenir bien longtemps. Il va recommencer ses équipées nocturnes, ce qui va provoquer la rage des fermiers et déclencher une guerre ouverte entre humains et animaux de la forêt. Alors, en partant de cette fable a priori très enfantine, Wes Anderson va injecter dans son scénario tout ce qui fait l'originalité et la personnalité de son cinéma. Il parsème son histoire de situations et de dialogues très écrits à l'humour absurde. Il transpose chez les animaux de la forêt les préoccupations familiales et existentielles qu'on trouvait déjà chez les personnages de ses précédents films. Et il refait appel à sa famille de comédiens attitrés pour donner de la voix. Donc de Owen Wilson à Bill Murray, en passant par Willem Dafoe et Michael Gambon, qui avaient déjà participé à La Vie Aquatique. Bref, Fantastic Mr. Fox s'avère être un pur film de Wes Anderson. Alors on retrouve avec bonheur cet usage si particulier de l'humour pince sans rire et du non-sens qui font tout l'intérêt des œuvres du réalisateur. Un type d'humour qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté aujourd'hui dans le cinéma, les spectateurs ayant tendance à préférer aller voir Michael Youn, Bigard ou José Garcia faire une démonstration de leur talent de pétomane. Alors bien sûr, une marionnette de renard qui contemple les étoiles en se demandant avec un air pénétré « Qui suis-je ? Pourquoi un renard ? Pourquoi pas un cheval, un scarabée ou un chien ?» Forcément, ça ne fait pas rigoler tout le monde. Mais pour les amateurs, Wes Anderson, c'est un véritable maître de l'humour décalé et sophistiqué. Alors l'animation devait être à l'origine confiée à Henry Selick, le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui avait déjà porté à l'écran une œuvre de Roald Dahl avec James et la pêche géante en 1996, et qui avait déjà travaillé avec Wes Anderson, puisqu'il s'était occupé de l'animation des animaux fantastiques traqués par l'équipe de Steve Zissou dans La Vie Aquatique. Mais bon, au moment du tournage de Fantastic Mr. Fox, Selick était accaparé par la mise en scène de Coraline, et c'est donc à Mark Gustafson qu'a échu la lourde tâche de superviser le travail des équipes d'animateurs impliquées dans le projet. Alors l'une des exigences de Anderson concernant l'esthétique de son film, c'était d'éviter les procédés habituels de cadrage et de découpage propres à l'animation, avec des mouvements de caméra très amples et un maximum de gros plans. Son souhait, en fait, c'était de filmer ses marionnettes et ses décors en miniature à la manière d'un film en images réelles. Et on retrouve donc certains des gimmicks visuels du réalisateur, comme par exemple cet incroyable plan séquence en travelling latéral sur le banquet organisé par les animaux. Un plan qui a nécessité 5 mois de préparation et de tournage. Ensuite, cette volonté de concevoir son film sans penser forcément animation traditionnelle, eh bien, cette volonté se retrouve dans l'organisation du doublage. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, le réalisateur n'a pas fait enregistrer les comédiens en studio, mais directement en situation. Quand une scène se déroule dans un champ ou dans une cave, les comédiens ont enregistré leurs répliques dans un vrai champ et dans une vraie cave. Et grâce à ce choix, la spontanéité de l'interprétation vient apporter un petit plus au film. Alors un autre détail qui reflète bien la personnalité du réalisateur, c'est ce choix d'une animation imparfaite, assez loin de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Donc les mouvements ne sont pas toujours très fluides, l'animation semble par moments assez rudimentaire, et de nombreuses imperfections inhérentes à la manipulation des marionnettes ont été conservées volontairement. Et ce que l'animation perd en réalisme, eh bien elle le gagne encore une fois en spontanéité et en poésie. On pense ainsi à plusieurs films plus ou moins récents qui ne faisaient pas du tout de chichi avec les défauts de l'animation en stop motion, comme par exemple Le Sens de la Vie pour 9,99$, Intolérance, Panique au Village, et bien sûr le Pierre et le Loup de Suzy Templeton qui utilisait déjà des marionnettes à fourrure. Alors dans l'ensemble, la direction artistique est en adéquation avec le reste de la filmographie d'Anderson. On retrouve ce côté un peu vintage dans les costumes et dans les accessoires. Et on retrouve aussi cette sensibilité particulière pour les effets spéciaux bricolés, un peu désuets. Enfin, il y a la musique signée par Alexandre Desplat qui vient parfaitement habiller les images d'Anderson. Alors entre des accents très oniriques à la Yann Tiersen et un hommage soutenu aux partitions d'Ennio Morricone avec sifflement, guimbarde, cloche et roulement de tambour de rigueur, eh bien cette bande originale est une petite merveille qui supporte sans problème d'être écoutée même sans le support des images. Voilà, donc à mon avis, Fantastic Mr. Fox, c'est le film à voir en ce moment, avec une dimension très jubilatoire qui est liée à la fable enfantine imaginée par Roald Dahl, qui enchantera les jeunes spectateurs, et un humour, une esthétique et des thématiques typiquement andersoniens qui réjouiront les plus âgés. Voilà, quant au choix entre VO sous-titré ou version française, sachez que si vous y allez avec des enfants, le film est quand même assez bavard, et à moins que vos chères têtes blondes aient une maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare, il vaudra mieux les emmener du côté du multiplex pour le voir en français. Même s'il est préférable de le voir en anglais, il faut savoir que le réalisateur a supervisé lui-même le doublage en choisissant les comédiens chargés d'incarner les personnages principaux, donc Mathieu Amalric et Isabelle Huppert. Voilà, il pense à tout, il est vraiment fantastique ce Mr. Anderson. Voilà un petit extrait de la bande originale de Fantastic Mr. Fox, signé Alexandre Desplat. Un film que je vous recommande chaudement.
Et c'est très bien. Enfin, moi, je pense que c'est bien d'aller le voir aussi en version française, effectivement, parce que s'il a supervisé eh bien, le doublage, ça reste quand même une meilleure expérience pour un film d'animation où on sait très bien que bien, le jeu d'acteur n'est pas si important. Si important. Ouais. Voilà. Non, je sais que c'était presque un débat qu'on avait eu sur les films d'animation japonais où il fallait conserver, selon toi, la langue japonaise.
Voilà, il y a une certaine musique inhérente à chaque langue qui a un certain rythme, voilà, qui est vrai aussi bien en image réelle qu'en animation. Mmh. Bon, après, c'est vrai que là, je pense que le rythme aussi de la langue a été travaillé sur la version française. Donc, l'un et l'autre, je pense, se valent. Moi, bien sûr, je vous invite à aller voir la version originale sous-titrée. Mmh.
Comme d'habitude, de quoi, au final ?
Alors, nous passons à, non pas White Lightning, mais Shutter Island.
Et voilà, nous y sommes. Après un report de plus de 4 mois pour cause officielle de crise économique touchant le cinéma, puisque sa sortie aux États-Unis était initialement prévue le 2 octobre 2009, voici que sort en salle aujourd'hui le dernier film de Martin Scorsese, Shutter Island. À noter que cela faisait plus de 2 ans, depuis son doc sur les Stones, Shine a Light, que le réalisateur avait délaissé les toiles blanches des cinémas. Alors Scorsese, tout le monde connaît pour ses Mean Streets, Taxi Driver et Raging Bull de la fin des années 70, son controversé mais brillant La Dernière Tentation du Christ, et enfin Les Affranchis et Casino, sortis tous deux au début des années 90. En quelques mots, et ce n'est une nouvelle pour personne, le cinéma de Scorsese est facilement identifiable par son regard particulier porté sur New York, plutôt tourné sur les bas-fonds sociaux et la crasse de la ville, là où d'autres réalisateurs préfèrent s'arrêter à une vision de celle-ci plus idéalisée. Alors, communément désigné dans les années 60-70 comme terre promise de tous les espoirs et des rêves de réussite les plus fous, New York apparaît plutôt chez Scorsese comme l'incarnation du rêve américain dans ce qu'il a de plus réalistement réel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à la richesse et au succès de certains, qu'exudent les grandes voitures et les hauts buildings de la métropole, s'oppose l'impossibilité d'accessibilité de la plupart. New York apparaît alors comme le vaste théâtre du drame et de la déchéance de milliers d'existences. Scorsese déploie tout un savoir-faire pointilleux pour immerger le spectateur dans ses histoires, où il est souvent question de chemins de traverse périlleux à emprunter pour de jeunes individus plus ou moins ordinaires, rêvant de gloire, d'argent et de femmes. Face aux inégalités sociales patentes et à la condition précaire, le recours à la drogue et au crime organisé, à l'imposture et au mensonge, est souvent la seule alternative retenue par les protagonistes, qui finit bien évidemment par entraîner leur déchéance, tant psychologique que sociale. Les films de Scorsese regorgent de personnages à la limite de l'anti-héros, arborant quelques aspects attachants, permettant l'identification ou la sympathie, juste ce qu'il faut, avant de révéler leur multitude de vices et défauts. Scorsese adore prendre son temps pour nous en révéler tous les accents et aspects, rendre plausibles ces tragiques destinées par un soin particulier apporté à l'élaboration des décors, à la lumière et à la direction d'acteurs qui permit d'ailleurs à nombre d'acteurs de se révéler ou d'exploser, parmi lesquels on peut compter Harvey Keitel, Joe Pesci, Robert De Niro, Ray Liotta, Willem Dafoe, Daniel Day-Lewis, pardon, et puis évidemment Leonardo DiCaprio. Pour résumer, c'est peut-être en maestro du film noir à gros budget que l'on peut désigner le réalisateur. Voilà, tout ça c'est bien sympa, mais bien sûr je m'éloigne du sujet d'aujourd'hui qui est donc la sortie sur nos toiles blanches de Shutter Island. Alors, qu'attendre de ce film ? Ben, rien. Ras-le-bol de ce vieux faiseur qui est devenu Scorsese, qui semble désormais se contenter de faire tourner la monstrueuse et insatiable prédatrice hollywoodienne pour croquer lui-même sa part du gâteau dodu, et ce n'est pas son récent hold-up d'Infernal Affairs d'Andrew Lau qui le démentira. Avec son The Departed, qui allait jusqu'à recopier le découpage plan par plan d'Infernal Affairs, Scorsese révélait par là même que cette dénonciation de l'illusion au profit d'une esquisse mordante de la réalité dégueulasse, dont il avait pourtant fait son cheval de bataille, était désormais non seulement affaire du passé, qu'il était donc bien rentré dans le rang, mais surtout qu'il avait capitulé à faire bosser les cerveaux et en premier lieu le sien. Certes, le biopic sur Howard Hux et le doc sur les Stones, ce sont des coups de cœur divertissants et plutôt efficaces, mais divertissent et puis c'est tout quoi. D'où la persistance de la question, qu'attendre de cette sortie de Shutter Island, outre l'occasion de constater une fois de plus la mégalomanie débordante d'un réalisateur à l'inspiration fatigué. Alors, il faut quand même reconnaître à Martin Scorsese un don particulier pour déceler et s'investir sur des sujets porteurs et prometteurs, car Shutter Island, le film, eh bien en fait, c'est l'adaptation de Shutter Island, le livre de Denis Lehane. Ce qui nous renvoie à la question pertinente, quoique un brin feignante, de savoir qui est Denis Lehane. Denis Lehane, eh bien, c'est tout simplement un auteur américain que la qualité des œuvres a porté au rang de monsieur du roman noir. Qualité dont tout un chacun, tant soit peu amateur de films grand public, aura pu se faire une idée, puisque Mystic River de Clint Eastwood ou Gone Baby Gone de Ben Affleck, eh ben, c'est lui. Ces deux films sont en fait des adaptations de ses romans éponymes. Alors Shutter Island, le roman est un thriller noir. L'histoire se déroule en 1954, au large de la Virginie, sur l'île Shutter Island. On découvre au début du roman Teddy Daniels et Chuck Hall, deux marshals fédéraux embarquant dans un ferry pour se rendre sur la petite île. Cette dernière est en fait un bastion pénitentiaire abritant un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. On apprend que la raison de la venue des deux agents est la disparition d'une de ses pensionnaires, à savoir Rachel Solando, disparition donc sur laquelle ils vont devoir enquêter. Le récit est en fait présenté sous la forme de mémoire d'un psychiatre de l'hôpital, le docteur Lester Sheehan. De fait, la narration est à la troisième personne, dotée d'un point de vue subjectif, celui du principal protagoniste, l'agent Teddy Daniels. Ceci est assez important car c'est par son regard que le lecteur va découvrir l'ensemble de l'histoire, doté d'un suspense certain. Car très rapidement, le lieu, battu par le vent, la pluie et les flots, va révéler son aspect hautement anxiogène. Dans l'enceinte du complexe, les bâtiments sont décrépits, austères et lugubres, semblant renfermer bien des mystères. On se représentera aisément la bâtisse de l'orphelinat de Saint-Ange de Pascal Laugier à ce propos. Ce qui va rapidement attirer l'attention du lecteur, tandis que s'enchaînent les pages et que défile l'histoire, c'est le caractère surréaliste de l'évasion de la détenue qui serait passée devant plusieurs postes de garde sans attirer l'attention, aurait franchi moult grillages et portes fermées sans laisser de traces, à l'exception d'un étrange message codé retrouvé dans sa cellule. Quand se rajoute à cela le mutisme marqué du personnel médical et carcéral, s'instaure un climat mystique, étrange et dangereux dans lequel les deux agents vont devoir malgré tout évoluer. Véritable personnage du film, la petite île avec ses falaises à pic, son phare inaccessible et ses sombres forêts contribue à l'aspect dérangeant du roman. D'autant qu'une tempête annoncée interdit bientôt toute possibilité de retour sur le continent pour les deux marshals, accentuant l'idée de piège se refermant sur les héros. Mais l'intérêt et le génie du roman résident dans la capacité de son auteur à surprendre et à perdre les repères du lecteur avec ceux de Teddy Daniels. Dans cette course contre la montre, puisque les deux agents n'ont que 4 jours pour résoudre l'enquête, on se rendra compte dans le roman pour quelle raison, l'enquête se déplace progressivement de sa raison première pour se tourner vers la recherche du réel dans cet environnement étrange où les apparences se révèlent de moins en moins fiables et où la tromperie se terre à chaque page. Conditionné pour douter de tout, le protagoniste va en venir à douter de lui-même, de son rapport au réel et peu à peu tomber dans l'introspection. Le roman de Denis Lehane est brillant, hautement immersif, et donc il n'y a plus qu'à espérer que le film de Scorsese saura en capter toute la saveur pour la retranscrire sur écran. Donc ça, bien sûr, ce n'est que spéculation, et c'est aujourd'hui donc, que vous pourrez vous rendre en salle pour confirmer ou infirmer tout ce beau discours que je viens de vous communiquer. Voilà.
Avec Leonardo DiCaprio qui revient aussi avec Scorsese.
Voilà, 4e participation de DiCaprio dans les films de Scorsese. Donc le dernier en date, c'était Aviator.
The
Departed. Avec avant ça Aviator et puis bien sûr Gangs of New York. Qui revenait sur la formation.
Avec Day-Lewis aussi.
Avec Day-Lewis qui était incroyable. Et qui
moi, ça fait partie des films que j'ai vraiment apprécié.
Ah oui,
Gangs of New York.
Mais ce qui est vachement intéressant dans Gangs of New York, c'est ça, c'est qu'à la base, tout tourne autour de DiCaprio, alors qu'en fin de compte, l'acteur qui littéralement traverse l'écran, c'est Day-Lewis. Il est incroyable, Day-Lewis. D'autant qu'il a une filmographie plutôt restreinte et que c'est un acteur vraiment brillant. On l'avait vu récemment l'année dernière, je crois, ou peut-être même celle d'avant, dans There Will Be Blood. Donc un autre Anderson.
Oui.
Là, c'est
qui Paul n'a rien à voir.
Mais... Qui n'a rien à voir, mais qui fait par contre aussi des films très très intéressants. Il était là.
Histoire de ces découvreurs de pétrole.
C'est ça.
Début du 20e.
Voilà, exactement. Ouais.
Et prochainement, Daniel Day-Lewis dans Nine de Rob Bowman.
Entouré de donzelles à faire rêver n'importe qui.
Aura-t-il des moustaches?
Je crois pas.
Ah,
je crois pas.
Je voulais pas vous parler de Illusiones Opticas, le film réalisé par Christian Jiménez. C'est un film chilien. Alors je vais en dire juste deux mots, si ce n'est que c'est une comédie plutôt bien fichue. C'est l'histoire d'un aveugle qui recouvre la vue et qui se dit que finalement le monde est bien merdique quand on le voit. Enfin, qu'il aurait préféré finalement ne pas changer de condition. Après, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour d'une clinique qui... qui voudrait donner du bonheur aux gens en leur donnant des meilleurs seins, en leur faisant recouvrer la vue, effectivement, et ainsi de suite. Et c'est la description d'un monde moderne où il fait bon faire des affaires. Voilà, alors avec des mensonges, des faux-semblants, et ainsi de suite. C'est très bien mené. C'était le premier film chilien, je crois, que je voyais de toute ma vie. C'est plutôt une bonne réussite. Donc, c'était au Diagonal. Et puis sinon, on peut se quitter en parlant de la cérémonie des Césars, parce que c'est ce samedi qu'a lieu cette cérémonie.
Avec l'excellent comique Gad Elmaleh, je crois,
qui va la présenter.
Oui, avec une autre présentatrice. Celle-là, par contre, j'ai oublié son nom, je ne vois plus.
C'est pas grave, on s'en fout.
Mais voilà, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, attention. C'est marrant comme toutes ces cérémonies permettent un peu à ces comédiens d'apparaître et puis d'avoir leur petit mot à dire, parce qu'il y avait eu pour justement le Festival de Cannes en ouverture.
Édouard Baird. Oui, mais qui est un habitué maintenant de Cannes de toutes ces cérémonies. Et puis sinon, il y avait Antoine Decaune auparavant, je crois que c'était plutôt ça, parce que c'était un peu drivé par Canal+, oui. Et ça doit l'être encore, d'ailleurs, cette cérémonie. En tout cas, parmi les meilleurs réalisateurs, il y aura Xavier Giannoli à l'origine, Jacques Audiard pour Un prophète, Philippe Hieret pour Welcome, Radu Mihalyenu pour Le concert, Lucas Bellevaux pour Rapt. Voilà.
Et à noter, Le prophète, 13 nominations, je crois.
Oui, énormément de nominations, mais il y a aussi à l'origine, puisque meilleur film français à l'origine, il y a Un prophète, il y a Welcome encore, Les herbes folles d'Alain René, La journée de la jupe. Je pensais que c'était sorti avant, mais non, c'était l'an dernier. Et Rapt encore de Lucas Bellevaux. Meilleure actrice dans un second rôle, on va oublier. Meilleur acteur dans un second rôle, et il y a Joe Starr qui est quand même nominé parmi les meilleurs acteurs dans un second rôle pour le film Le bal des actrices.
Oui, j'avais vu d'ailleurs son interview par Durand, où il se défendait pas mal d'ailleurs. J'ai assez apprécié ce qu'il a pu dire de ce Joystar.
Eh bien, peut-être qu'il va gagner. Meilleur espoir masculin, c'est encore Welcome, Un prophète, Les beaux gosses. Un prophète, c'est deux fois parce qu'il y a Tahar Rahim aussi. Donc, je pense qu'il va obtenir quelque chose. C'est pas possible, Tahar Rahim. Meilleur espoir féminin, on oublie. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? Rien peut-être.
Rien, mais on en parlera la semaine prochaine, je pense, plus en détail.
Et puis, on peut pronostiquer que c'est le prophète qui va rafler peut-être 80% des récompenses. On va voir.
Eh bien, pas forcément, parce qu'il y a en même temps, il y a Cluzet qui est nominé deux fois pour le meilleur acteur, parce que lui, il est dans deux films à l'origine, et puis le dernier pour La Route. Voilà. Et puis il y a Vincent Lindon dans Welcome, ça, les habitués, et le fameux Tahar Rahim, toujours dans Un prophète. C'est qu'il y a encore le générique, c'est pour ça que je continue. Il y a Avatar dans les meilleurs films étrangers, Grand Torino, Harvey Milk, J'ai tué ma mère, Panique au village, qui se retrouve là, film d'animation belge.
Et qui était plutôt pas mal.
Qui est plutôt pas mal. Et au milieu du ruban blanc de Michael Haneke et de Slumdog Millionaire, voilà, de Danny Boyle. Cérémonie des Césars.
Ils ont ratissé large quand même.
Slumdog ouais, mais moi je trouve que ça se tient bien.
C'était quoi? Quand est-ce qu'il est sorti ce film? Ça fait un moment.
2008 ou.
Ouais.
Mais je trouve que ça se tient bien, moi, quand même, malgré tout. On avait des événements, peut-être, c'est ça ?
Surtout, on n'a plus de temps pour terminer. Donc, les événements, ce sera la semaine prochaine. Il n'y a pas grand-chose, mais suivez les programmes des cinémas. Les Césars, on y reviendra sans doute la semaine prochaine, en long, en large et en travers. Non, c'est peut-être m'avancer un peu que de dire ça. Mais sinon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
On remercie Ellie à la technique et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Est-ce que vous savez ce qu'on trouve en Pologne à part les Polonais?
Qu'est-ce qu'on trouve?
Eh ben, on trouve des Cosaques. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Cosaque? Ben, un Cosaque, c'est un homme sur un cheval, avec un bonnet à poils sur la tête et un sabre à la main. Et avec ce sabre, il tue des Polonais parce que c'est des Polonais. Comme on veut tuer des Indiens rien que parce que c'est des Indiens. J'étais fier d'être un soldat américain, mon capitaine. Je ne serai pas de devenir un Cosaque.
Ah non, Vikovski, voyons, vous avez déjà combattu des Indiens.
Oui, mais des Indiens qui voulaient bien se battre.
Cinérama.
Mais pas des pauvres diables qui veulent retourner dans leur pays.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.